Question d'Islam par Al Benché. Le 21 avril 1938 s'est éteint Mohamed Iqbal. Aujourd'hui, nous commémorons les 80 ans de cette disparition, de la mort du poète-philosophe. Et pour en parler, j'ai plaisir à accueillir Abdelnour Bidar. Abdelnour Bidar, bonjour.
Bonjour, Khaled Bencher.
Bonjour, vous qui connaissez bien aussi cette émission dont vous avez assuré la production. Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste. Vous êtes un penseur de la tradition religieuse islamique et du fait islamique. Et nous parlons de Mohamed Iqbal. Vous lui avez consacré une monographie, « L'islam spirituel de Mohamed Iqbal », édité chez Albin Michel. Vous vous êtes intéressé à la pensée, à la vision, à la métaphysique de Mohamed Iqbal, parce que votre mère s'y était intéressée d'abord, elle, vous le dites, mais est-ce qu'il n'y avait que ce canal ?
Allama Iqbal, Mohamed Iqbal, m'a accompagné en effet depuis mon enfance.
C'est le savant, le savantissime.
Voilà. C'est comme ça qu'il est connu, c'est sous ce nom qu'il est connu encore aujourd'hui au Pakistan, où il est honoré comme un des pères fondateurs, et on pourra en parler d'ailleurs. Il y a d'ailleurs tous les ans une journée nationale de commémoration et d'hommage à sa poésie notamment, parce que comme vous l'avez dit, il fut non seulement philosophe mais poète. Et ça m'impressionne, parce que philosophe, je suis philosophe, enfin j'essaie, mais poète, je ne saurais pas l'être. Et lui était les deux. Ma mère lisait Mohamed Iqbal, en effet, lorsque j'étais petit, mais curieusement, alors qu'elle m'en a parlé pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai mis du temps à m'y intéresser de moi-même, véritablement. Et lorsque je l'ai fait, c'était entre l'âge de 20 ans et 30 ans, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin, c'est-à-dire que j'essayais à ce moment-là de commencer à élaborer une pensée personnelle, et rien n'est plus difficile que d'élaborer une pensée personnelle, en l'occurrence appliquée, comme vous l'avez dit, à la tradition religieuse et mystique de l'islam. Et je me suis rendu compte de quelque chose que disent les philosophes, qui est que penser par soi-même, ce n'est pas penser tout seul. On a nécessairement besoin de s'appuyer sur des grands devanciers, et on a besoin d'hériter, et on a besoin de recevoir des transmissions. Et lorsque je me suis mis à chercher qui pourrait m'inspirer véritablement, eh bien, entre autres et notamment, je suis tombé sur Mohamed Iqbal. Et là, véritablement, j'ai commencé à le lire d'arrache-pied, à me casser les yeux véritablement, ou à me casser la tête sur la lecture d'Iqbal, et à découvrir cet univers très peu connu ici, mais qui est absolument singulier et, pour tout dire, assez fantastique.
Il est étonnant d'ailleurs que Mohamed Iqbal ne soit pas connu dans cette région du monde, dans la partie occidentale, et que l'honnête homme, selon la définition que nous en faisions au XVIIIe siècle, ni vous ni moi n'y étions présents. Quand je dis nous en faisions, je me place dans la continuité de cette idée des Lumières, que l'honnête homme se doit de connaître ce qui se produit. Et j'ai noté dans ce que vous avez dit à l'instant, Abdelnour Bidar, deux points. D'abord que c'est entre 20 et 30 ans que vous avez voulu penser par vous-même. Si je devais faire le pédant et si je pontifie, je dirais « per se » et non « per altrum », c'est-à-dire penser par soi-même et non pas par autrui. Mais là, vous avez eu besoin d'un devancier qui lui-même, vers l'âge de 30 ans, c'est vous qui le dites, est arrivé à un temps où il avait senti le besoin de penser par soi et d'élaborer une pensée personnelle.
Je pense qu'il y a au moins trois ou quatre facteurs qui expliquent chez Mohamed Iqbal cette nécessité à un moment donné de penser par lui-même, c'est-à-dire de se poser la question « qui suis-je ?», la question de son identité. Le premier facteur est tout à fait personnel. Il est assez peu connu. Mohamed Iqbal naît à Sialkot. On est au nord-est de l'actuel Pakistan. Mais à l'époque, ce sont les Indes britanniques. On est à l'est de l'Indus, à l'est de la vallée de l'Indus, au pied du Cachemire, dans le Pendjab. Il naît en 1877. Et il naît d'un père converti à l'islam. C'est-à-dire que son grand-père paternel était un brahmane hindou, Sa maman, elle, était d'origine et de culture musulmane, mais il y a chez Mohamed Iqbal ce rapport complexe et étrange à penser, et par rapport auquel je pense qu'il a dû se situer, entre l'hindouisme et l'islam. Donc il y a ce premier facteur personnel. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'aspects de sa philosophie, il y a manifestement, on pourra peut-être en parler, des réminiscences d'un certain nombre de thématiques hindoues ou hindouistes. Le deuxième élément, c'est qu'il est un sujet des Indes britanniques, et il se pose la question de son identité de musulman et la question de l'identité de l'islam, qui est pris dans une relation de double domination, de double suggestion. Tout d'abord, à Sialkot, à ce moment-là, il est pris, et les musulmans sont pris dans un ensemble culturel qui est un ensemble culturel hindou. Et puis, il est un sujet des Indes britanniques. Donc, se pose la question de son identité par rapport à ces cultures dominantes vis-à-vis desquelles il considère que l'islam est captif et vis-à-vis desquelles il va chercher à la fois à s'émanciper sur le plan personnel en proposant une pensée de l'islam qui soit une pensée autonome. Et puis, il va s'engager dans la Ligue musulmane de son époque. Il va également travailler à émanciper l'islam comme identité politique. Bon. Et puis, le troisième facteur qui l'amène, me semble-t-il, qui lui fait une nécessité de cultiver sa pensée personnelle ou son esprit critique, eh bien, c'est le fait qu'il est repéré par ses maîtres anglais à Sialkot et il est envoyé au début du XXe siècle, on est en 1905, à Cambridge.
Notamment Sir Thomas Arnold.
Voilà, Sir Thomas Arnold. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il découvre, il lit avec stupéfaction les penseurs de la première modernité, et notamment celui qui va lui produire l'impression la plus forte, la plus colossale, qui va véritablement même bouleverser sa vision du monde et l'interroger au plus profond de ce qu'il est, l'ébranler véritablement sur le plan non seulement intellectuel mais spirituel, c'est Nietzsche, la lecture de Nietzsche. Et notamment la proposition de Nietzsche fameuse au début du livre 5 du Gai Savoir, la proposition de la mort de Dieu. Nous sommes ces meurtriers, etc., etc. Alors qu'est-ce que cette mort de Dieu peut signifier pour un petit musulman d'ascendance brahmane ou brahmanique au début du XXe siècle? Eh bien, ce qui est absolument formidable avec Mohamed Iqbal, c'est qu'il va relever le gant. C'est-à-dire qu'il va accepter la proposition de Nietzsche qu'en effet, avec la modernité venue de l'Occident, quelque chose s'est passé qui est un événement de civilisation qui pourrait concerner l'humanité tout entière et qui pourrait concerner, plus précisément, le rapport millénaire, ancestral, universel que les êtres humains ont entretenu avec leur Dieu, quels que soient les noms qu'ils leur donnent et quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète. Donc il va relever le gant, c'est-à-dire qu'il va se mettre à penser quelque chose comme une vie spirituelle dans laquelle le rapport entre les hommes et les dieux aurait changé par rapport à ce qu'il a été pendant des millénaires.
En effet, Mohamed Iqbal est d'ascendance brahmane. On dit que sous le sultan Zain al-Abidin Padishah, ses aïeux avaient joué un rôle important dans la cour qui plus tard se connaîtra le point culminant avec Akbar. Et petit à petit, il y a cette islamisation qui se fait avec dans sa famille. Et lui, il garde donc ses traces de l'hindouisme, sa marque, sa mystique.
Ah oui, ça marque indéniablement sa mystique, mais en creux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas explicite. Je parlais tout à l'heure de réminiscence. Je vais vous dire à quoi je pense précisément. La notion fondamentale de la pensée de Mohamed Iqbal, c'est une notion qui, en ourdou et en persan, se dit « khoudi ». La pensée du « khoudi ». Alors qu'est-ce que c'est que ce « khoudi » C'est, chez Iqbal, cette notion désigne la personnalité transcendante de l'être humain, le soi, ce que les hindous, par exemple, appellent le soi, et qui est dans l'hindouisme, qui a deux déclinaisons. Il y a l'atman, qui est le soi personnel, et qui est la façon dont le brahman, c'est-à-dire le soi universel, réside dans le cœur de chaque être humain. Et de toute évidence, il y a une analogie entre le khoudi chez Mohamed Iqbal, c'est-à-dire la façon dont il considère et dont il conçoit le soi humain, comme un soi transcendant, c'est-à-dire une nature profonde de l'être humain qui est à la fois humaine et divine en réalité, et la façon dont les hindous considèrent l'atman. Mais jamais, à aucun moment, Mohamed Iqbal, en tout cas à ma connaissance, ne fera le parallèle explicite. Cependant, ce qui accrédite l'idée qu'il y a une réminiscence de l'atman dans la notion de Houdi, c'est que avec la notion d'un soi transcendant que l'homme aurait à cultiver en lui-même, hein, dont il aurait à actualiser la conscience en lui-même par un certain nombre d'exercices spirituels. C'est par exemple pour Mohamed Iqbal la vocation de la prière ou la vocation du zikr, par exemple, c'est-à-dire de l'invocation. Actualiser, c'est-à-dire réaliser cette conscience de soi supérieure comme Houdi, comme personnalité à la fois humaine et divine, eh bien, il y a une rupture chez Iqbal avec notamment, je dirais, le soufisme commun ou le soufisme courant qui, lui, développe l'idée d'un anéantissement de l'ego et d'une annihilation de l'ego. Et Mohamed Iqbal, dans une lignée qui, à mon sens, est beaucoup, beaucoup plus singulière
et audacieuse,
parle au contraire d'un développement de l'ego, d'une maturation spirituelle de l'ego, d'une maturation de l'ego spirituel, pour aller à la rencontre en soi de ce Houdi. Et là, il y a véritablement une affinité d'esprit avec ce que les hindous, qui suivent la doctrine du Vedanta, la doctrine de la non-dualité, l'Advaita Vedanta, ce dont ils parlent lorsqu'ils disent qu'il s'agit de cultiver justement en soi la conscience de l'Atman, c'est-à-dire la conscience de cette personnalité transcendante. Voilà, c'est une piste de réflexion qui nous permet de voir tout de suite la singularité de Mohamed Iqbal dans un paysage spirituel de l'islam, où souvent, lorsqu'on va chercher des approfondissements des questions mystiques ou des questions métaphysiques, on se dirige vers un soufisme qui lui parle davantage de ce qu'on appelle en arabe « fanafillah », c'est-à-dire de l'extinction en Dieu, de l'extinction du mot en Dieu. Et Mohamed Iqbal a, de ce point de vue-là, une image qui est absolument extraordinaire. Il dit, tandis que les soufis parlent de la goutte d'eau individuelle
dans l'océan,
qui se fond dans l'océan, il dit... L'être humain qui a cultivé son Houdi, eh bien, c'est la goutte d'eau qui absorbe l'océan.
Oui, et que cet anéantissement, cette extinction, cette coalescence, pour utiliser un terme un peu plus physique ou chimique, de la goutte d'eau dans l'océan, c'est plutôt l'inverse. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'une audace spirituelle, et que c'est, nous aurons, si vous voulez bien, Abdelnour Bidar, et y revenir tout au long de l'émission, que c'est ce soi avec un grand S ou cet ego qui est l'ego créateur qui transcende les catégories du temps. On peut pas parler d'un avant, d'un après quand il s'agit du soi créateur. Revenons à sa formation. D'abord, elle est classique en famille. Quand je dis classique, ce n'est pas dépréciatif. C'est dans les cours et la formation que doit avoir un jeune homme en cette fin ou ce dernier quart du 19e siècle. Il part à Cambridge, vous l'avez dit, et la rencontre fulgurante donc avec Nietzsche, mais aussi avec la pensée bergsonienne. Il connaît Bergson, et donc ça le travaille, ça façonne sa vision du monde.
On parlera tout à l'heure, vous l'avez dit, de cette dimension caractéristique du Houdi, du soi, qui chez Mohamed Iqbal n'est pas statique mais dynamique. Hein, c'est un soi créateur. Bon, il montre comment, selon lui, le prophète Mohamed, prophète de l'islam, est l'archétype en quelque sorte de ce soi créateur en tant que prophète. Bon, il arrive en effet en Occident au début du XXe siècle. Il rencontre plusieurs penseurs qui le marquent. Il y a Nietzsche, je l'ai à peine évoqué. Il y a William James également. Et puis, il y a Bergson. Alors, ce qui est très intéressant, je vais expliquer ce que cela peut donner avec Bergson, c'est qu'il se met à entretenir avec ses penseurs un rapport, j'aurais presque envie de dire « je t'aime moi non plus », c'est-à-dire que à la fois, il est capable de s'en inspirer et en même temps, il a une vigueur critique, une puissance critique vis-à-vis de ses penseurs, qui est tout à fait remarquable. En l'occurrence, il est très intéressé chez Bergson par la notion de durée. Hein. On sait que Bergson est un des penseurs, alors on l'a appelé vitaliste, on l'a appelé spiritualiste, etc. Il y a des affinités très profondes avec Mohamed Iqbal, au sens où Bergson s'inscrit lui-même dans ce moment de la tradition philosophique occidentale, dans une rupture critique avec un certain rationalisme et avec un certain positivisme qui domine à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc il est en affinité, je dirais, spirituelle avec Mohamed Iqbal. Et la notion de durée chez Bergson, c'est la notion de, je dirais, d'une certaine perception du temps ou d'une certaine expérience du temps dans laquelle, eh bien, pour le dire rapidement, la conscience humaine ne subit plus le temps comme un déterminisme, quelque chose qui lui est imposé du dehors, qui lui est imposé de l'extérieur. Les minutes passent, les heures passent, le temps passe inexorablement, et la clepsydre se vide, hein, comme aurait dit Baudelaire dans l'horloge. Bergson dit que lorsque l'homme approfondit sa conscience du temps, il s'installe dans ce qu'il appelle la durée, c'est-à-dire une certaine qualité de temps ou une certaine qualité de rapport au temps, dans laquelle ce temps ne passe plus contre lui et n'est plus un temps qui l'amène vers la mort et un temps qui le condamne inexorablement, mais une temporalité dont en quelque sorte il se rend maître. Ou une temporalité qui est la temporalité de l'expression de soi au lieu d'être la temporalité d'un déterminisme qui écrase le moi. Donc c'est une expérience du temps qui est une expérience plus consciente, plus approfondie, plus mystique. L'homme s'aperçoit d'une certaine façon que, eh bien, il est le temps. Il est le temps. Et ce temps ne le tue pas. Ce temps est le temps du déploiement de son être. Et là encore, il y a évidemment une référence à une certaine qualité d'ego, hein, ou d'égoïté, c'est-à-dire une certaine qualité d'expression de soi. Et Mohamed Iqbal va s'engouffrer là-dedans. Il va s'engouffrer là-dedans, c'est-à-dire que il va être d'accord avec Bergson pour dire que l'homme peut vivre un rapport au temps qui est différent, pour vivre le temps et expérimenter ou éprouver le passage du temps, non pas comme quelque chose de fatal, non pas comme quelque chose de mortel, mais comme quelque chose de tout à fait fécond pour soi et pour l'expression de soi. Et en même temps, il va dire de façon critique à Bergson, attention, l'homme ne fait pas spontanément cette expérience du temps, il lui faut s'exercer spirituellement, véritablement s'exercer spirituellement, à éprouver cette durée, à faire l'expérience de cette durée. Et je crois que ce qu'il dit à Bergson, là, c'est quelque chose qu'il dit à la modernité tout entière, modernité occidentale tout entière qu'il a en face de lui, c'est-à-dire qu'il lui dit, si tu veux concevoir véritablement ce type d'expérience, il faut travailler spirituellement, il faut travailler sur soi. Et ce qui est une opportunité pour Iqbal de faire se rencontrer à la fois des intuitions qui viennent de cette modernité occidentale, possibilité d'un autre rapport au temps, et de réinvestir là-dedans son héritage spirituel, qui est un héritage théologique, mystique, initiatique, etc.
Et c'est pour ça que l'une de ses recommandations faites à ses corréligionnaires et de dire, si tu veux saisir au lasso le sens évident des versets coraniques, tu devrais t'y mettre et t'y attacher avec plus d'exercice spirituel, mais aussi de conscience. Mm-hmm. C'est vous qui avez travaillé notamment sur le reconstruire désormais, c'est reconstruire la pensée religieuse en islam, un de ses ouvrages majeurs, il y en aura d'autres que nous passerons en revue. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de l'islam spirituel de Mohamed Iqbal avec Abdennour Bidar, le philosophe et le fin connaisseur de l'œuvre de Mohamed Iqbal. Vous lui avez consacré deux ouvrages, dont celui-ci et plus, mais celui-ci est une édition augmentée et enrichie chez Albin Michel. Alors, vous avez fréquenté l'homme et le métaphysicien, le philosophe, le poète créateur. Je reviens à l'étymologie du mot grec, la poétique étant à la fois une production, une création. C'est la combinaison de la pensée spéculative, philosophique et la production artistique et poétique qui caractérise l'œuvre de Mohamed Iqbal.
Oui, alors je reviens un tout petit peu en arrière. Après, si vous le permettez, je vous lirai un tout petit poème de Mohamed Iqbal afin que nous puissions nous rendre compte sur pièce de quoi il s'agit. J'ai écrit en effet ce petit livre sur Mohamed Iqbal. Je lui ai consacré également ma thèse de doctorat en philosophie parce qu'il m'a semblé particulièrement important d'essayer ou de contribuer à donner, je dirais, une existence à l'œuvre de Mohamed Iqbal sur le plan universitaire, ici en France, où cette œuvre est à peu près méconnue, véritablement. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait cette thèse de doctorat, j'ai dû, en l'absence de tout spécialiste francophone de Mohamed Iqbal travaillant ici à l'université française, faire appel comme co-directeur de thèse à Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne qui est actuellement professeur de philosophie à l'université de Columbia à New York et qui est un des seuls autres francophones à travailler sur l'œuvre de Mohamed Iqbal. Et je lui rends hommage véritablement parce qu'il a été bien longtemps après Evad Vitré Meyerowitz qui avait traduit ses œuvres.
Vous qui êtes jeune, donc vous n'avez pas atteint, elle est morte en 1999 et bien entendu votre thèse était postérieure à son décès, Anne-Marie Schimmel. Mais bien sûr. Donc effectivement le seul francophone, si je puis dire, était Diagne, le professeur Diagne. Bon, très bien, et donc votre thèse a été co-dirigée par lui.
Co-dirigé par Souleymane Bachir Diagne, parce qu'il me fallait nécessairement un spécialiste de l'œuvre de Mohamed Iqbal. À ce propos, je voudrais dire et lui rendre hommage. Il nous a quittés brutalement et récemment. Rendre hommage à Étienne Tassin. Étienne Tassin qui était professeur à l'université de Paris 7. C'était un grand spécialiste de philosophie politique, un grand spécialiste d'Anna Arendt. Et c'est lui qui avait accepté de diriger cette thèse de doctorat au motif qu'il y a une dimension politique dans l'œuvre de Mohamed Iqbal. Alors, vous parliez de la poiesis grecque, c'est-à-dire cette activité fabricatrice, cette activité créatrice, productrice. Chez Mohamed Iqbal, elle s'est manifestée par la production d'idées, la production de pensées, et en particulier sous une forme poétique extrêmement belle. Et je dirais un des miracles de la poésie d'Iqbal, c'est que même quand on la traduit en français, elle continue de signifier et de sonner et d'avoir une certaine musicalité. Alors je voudrais vous en donner un exemple qui est tiré d'un de ses livres bien traduit par Evad Vitré Meyerowitz. Ce livre a pour titre c'est le livre de l'éternité. Tout un programme. Et il parle de ce qu'il imagine être la destinée de l'être humain, justement cet être humain qui apprendra, selon lui, de mieux en mieux ou de plus en plus à l'avenir à cultiver en soi ce roudi, cette personnalité transcendante, éminemment créatrice elle-même. Voilà ce qu'il dit donc au sujet de l'être humain du futur. Une poignée de poussière surpassera un jour en éclat les êtres de lumière. La terre, par l'astre de son destin, deviendra un jour un ciel. Son imagination, qui se nourrit aujourd'hui du torrent des événements, dépassera les tourbillons de la sphère ajourée, un jour. Considère un instant l'essence de l'homme. Que nous demandes-tu à nous? Il est encore enlisé dans la nature, mais il sera parfait un jour. Si parfait deviendra cet être banal que Dieu lui-même deviendra jaloux de lui un jour.
Oui, c'est à la fois beau et profond. Il y a on voit la trame et la trace poétique. Je puis vous assurer, cher Abdennour Bidar, que ceux qui se sont essayés à traduire son œuvre, notamment de l'ourdou à l'arabe, voire du persan à l'arabe, ont essayé de garder la sonance, et quand elle était rimée, ça donnait, et rythmée, ça donne des scansions et une versification très très belle aussi en langue arabe. Donc là, c'est plutôt l'œuvre traductrice d'Evad Vitré Meirovitch qui nous a rendu ce passage que vous nous avez bien lu. Il y a un autre point, Abdennour Bidar, c'est la portée à la fois universelle et humaniste de l'homme. C'est-à-dire que lui, l'horizon ne se restreint pas uniquement à la tradition religieuse islamique. Il ne s'adresse pas uniquement à ses corrélégionnaires ou aux musulmans. Il s'adresse à l'homme. C'est de l'homme qu'il s'agit et de l'humanité créatrice de ce dont il s'agit.
Ça, c'est tout à fait extraordinaire chez Mohamed Iqbal, c'est-à-dire qu'il est à la fois un penseur ressource prodigieux pour l'islam et les musulmans, puisque selon lui, alors son constat sur l'état de l'islam au moment où il le considère, son constat est sans appel. Il dit l'islam s'est immobilisé, sa pensée s'est rigidifiée. Lui dit depuis 1258, c'est-à-dire depuis la fameuse mise à sac de Bagdad. Bon. Donc il est très sévère et il propose véritablement une régénération d'un certain nombre de fondements de l'islam dans ce livre que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a pour titre « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam », qui est en réalité une compilation de 7 conférences qu'il prononce entre 1928 et 1932. Bon. Mais en même temps, il y a une dimension universelle ou universaliste dans sa pensée, et ça, je trouve ça extrêmement rare pour un penseur musulman, c'est-à-dire que il se sert de la ressource de l'islam pour la proposer en dehors de l'islam, non pas dans le but de convertir le monde à un islam qui serait devenu Uber Alles, bien entendu, pas du tout, ce n'est pas du tout son propos, mais il fait cet effort pour dépayser la pensée de l'islam, la culture d'islam et la proposition spirituelle de l'islam en direction de l'humanité, parce qu'il a compris, on est au début du XXe siècle, il a compris que, comme le dira Paul Valéry, nous sommes maintenant dans un monde clos, que nous avons tous, au niveau de la civilisation humaine, les mêmes difficultés, les mêmes questions, que nous traversons les mêmes crises, et qu'on ne peut pas penser dans son coin ou pour les siens, simplement, que nécessairement une pensée doit se proposer de façon beaucoup plus large. Alors voilà ce qu'il dit, par exemple, je vous le cite, c'est un petit passage de « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». Il s'adresse à l'humanité et vous allez voir qu'il écrit ça donc à la fin des années 20. Il y a une actualité aujourd'hui, quelque chose de contemporain dans ce qu'il dit, il y a pourtant plusieurs décennies, qui est saisissante. L'humanité d'aujourd'hui a besoin de 3 choses. Une interprétation spirituelle de l'univers, une émancipation spirituelle de l'individu et des principes fondamentaux de portée universelle orientant l'évolution de la société humaine sur une base spirituelle. Ce qui nous manque.
Tout ce qui nous manque, et vous-même avez, dans vos commentaires, vous avez fait aussi une partie, l'exégèse de reconstruire la pensée religieuse de l'islam, ce passage qui est tout aussi contemporain et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette idée de dire qu'il y aurait là un principe qui permettrait à tant de musulmans de vivre leur rapport à l'islam autrement que sur le mode de la contrainte sociale, de la culpabilisation et de l'étouffement. Et donc c'est tout un programme. Pour vous, le fait de plonger dans l'œuvre de Mohamed Iqbal, il y a là une vision programmatique de sortie de crise.
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai développé dans un certain nombre de livres. Je crois que la crise de notre temps est une crise spirituelle, véritablement. Et c'est ce qui moi-même m'a mis sur la piste de penseurs qui nous indiquent de façon complètement libre, de façon complètement ouverte, de façon non dogmatique, comment travailler spirituellement sur nous-mêmes, comment travailler spirituellement avec nous-mêmes, c'est-à-dire comment redonner du sens à la fois à sa vie et au monde à partir de l'intérieur et à partir de l'intériorité. C'est pour ça que la notion de Houdi m'a beaucoup intéressé chez Mohamed Iqbal, d'autant plus qu'elle n'est pas abstraite, elle est vivante. Cultiver le Houdi en soi, dit Mohamed Iqbal, c'est cultiver la puissance créatrice. Et il fait une analogie sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup médité. Et en réalité, c'est comme si je n'avais toujours pas commencé de méditer parce que cette analogie est me semble-t-il, extrêmement profonde et mystérieuse, une analogie entre la puissance créatrice et l'amour. Ça, c'est typiquement ghebalien. Alors l'amour, là, il utilise un mot arabe qui est, c'est pas hub ou mahabba, c'est rishq.
Donc, c'est un désir ardent.
Le désir ardent, amoureux. Véritablement. Et il dit que c'est ce qui est à cultiver en nous-mêmes, c'est ce qui est à intensifier en nous-mêmes, cette capacité d'aimer, qui est en même temps la capacité à créer, parce que, dit-il, la puissance créatrice et l'amour font la même chose, ils ouvrent devant la vie de nouveaux espaces d'expression. Voilà. Hein. Et c'est quelque chose qui a lieu aussi bien, je dirais, dans des petites choses très simples. Hein. Je me mets à dessiner, je vais préparer à manger, je vais venir au secours de celui qui a besoin. Celui qui crée, ce n'est pas seulement l'artiste, ce n'est pas seulement le découvreur, ce n'est pas seulement le philosophe, ce n'est pas seulement le poète. C'est tout être humain qui ouvre devant la vie, même modestement, qui sème par exemple, hein, qui plante des choses qui vont pousser. C'est celui qui ouvre devant la vie de nouveaux espaces de déploiement, qui fait le cadeau à la vie de nouveaux espaces de déploiement. Alors il dit par exemple, et c'est ça qui m'intéresse chez Mohamed Iqbal, c'est qu'il y a à la fois une réflexion très profonde, sur des notions très profondes, donc on est dans du spéculatif dur, je dirais, qu'est-ce que c'est que la puissance créatrice, qu'est-ce que c'est que l'amour, bon. Et puis il dit les mêmes choses de manière très pratique, très concrète, c'est-à-dire qu'il indique véritablement les moyens, un certain nombre de moyens de mettre notre moi spirituel en croissance. Par exemple, il dit ça. Il dit « L'ego est fortifié par l'amour. » Donc c'est là qu'il emploie ce fameux mot de Rishk. « L'ego est fortifié par l'amour. Ce mot est utilisé dans un sens plus large et signifie le désir d'assimiler, d'absorber. » Très étrange. Il explicite « Sa forme la plus haute est la création de valeurs et d'idéaux et l'effort pour les réaliser. » Donc, il y a véritablement là quelque chose qui nous invite à explorer ce qu'est l'amour, ce qu'est la puissance créatrice et la façon dont, en les cultivant, en les pratiquant, nous nous mettons en croissance.
Abdennour Bidar, moi j'ai été frappé aussi en lisant à la fois votre ouvrage et cette monographie consacrée à Mohamed Iqbal. À un moment donné, vous dites, pour revenir à la notion de Khodi, ce soi, cet ego, cette notion dynamique et créatrice, en disant que le Coran lui donne l'équivalent en l'appellation d'Allah. Et je m'étais dit, le débat est toujours ouvert, est-ce que Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité avec la contraction de l'article Al et le mot Ilah avec le I qui saute par aphérèse et la contraction donnera Allah, ou est-ce qu'effectivement il y a un nom spécifique quasi non propre et qui, coraniquement parlant, est ou serait l'équivalent du Khodi que vous nous expliquez si bien?
Chez Mohamed Iqbal, c'est fort possible. Alors il y a cette phrase que vous citez, je vais vous la donner de la manière la plus exacte. Je la connais par cœur à force de tourner autour. Je me rends compte d'ailleurs que... avec les années, qu'une vie intellectuelle et une vie spirituelle, c'est souvent le ressassement de quelques obsessions. Je le dis d'une façon un peu péjorative, mais en réalité, je m'aperçois à quel point la méditation personnelle a besoin de tourner et de tourner autour de tourner, non pas autour de la Mecque, hein, mais, ou alors il faut l'entendre symboliquement, mais autour de quelques petites choses qui ont pour nous valeur de vérité mystérieuse, je dirais, de vérité insondable. Bon. Et en l'occurrence, il y a cette phrase d'Iqbal au début d'une des conférences de reconstruction la pensée religieuse de l'islam, Mohamed Iqbal dit exactement « Afin de mettre en relief l'individualité ultime, hein, c'est-à-dire ce creative self, comme il dit, cet ultimate ego, comme il dit, parce qu'il écrit sa philosophie en anglais, donc afin de mettre en relief ce Khoudi, le Coran lui donne le nom Allah. » Ce qui est une proposition de sens absolument stupéfiante, inouïe au sens littéral du terme, c'est-à-dire non entendu encore. Et en effet, le nom propre serait là en réalité le symbole ou le chiffre mystérieux de ce point d'expérience intime de soi où l'humain et le divin sont en confluence. Hein, se rencontre, comme le dit Mohamed Iqbal, je le cite, ce point où l'humain et le divin deviennent un, et ont pour résultat la naissance de l'homme-Dieu.
Oui, parce que quand il dit que le Coran lui donne le nom d'Allah, on trouve aussi dans le prologue de Saint Jean, écrit en arabe, Allah, « Fil bat'i kanatil kalimatu, ul kalimatu min Allah, ul kalimatu hi Allah ». Donc, le prologue de Saint Jean lui donne aussi le nom d'Allah. Donc, ça sous-entend, est-ce qu'il s'agit encore une fois de l'appellation arabe de la divinité, ou est-ce que c'est cette réalité ultime que vous avez évoqué et que vous reprenez de Mohamed Iqbal? Le débat est là, chez les spécialistes de la pensée de Mohamed Iqbal.
Alors le débat est là, d'autant plus que il y a dans le Coran un certain nombre de formules. Moi j'en analyse quelques-unes là dans le livre, et notamment une formule qui est quand même tout à fait étrange, qui au lieu d'énoncer le premier élément de la shahada classique, « La ilaha illallah », énonce « La ilaha illa ana ». Hein, il n'y a de réalité que « je », hein, c'est-à-dire le « je suis » ou « je suis celui qui est ». Bon, ce que Iqbal va traduire comme, alors c'est un peu barbare en anglais, c'est « the I am-ness », hein, la « je suis-ité » ou « le je suis-ité ».
Une ipséité à la première personne, en quelque sorte.
Voilà, une ipséité XXL, je dirais, hein, c'est-à-dire le « je divin ». Bon.
Il réhabilite par là, Abdennour Bidar, Mohamed Iqbal, réhabilite par là Al-Hallaj, le mystique exécuté en 922.
Tout à fait. Alors, ce qui est remarquable et très étonnant chez Mohamed Iqbal, c'est qu'il va citer la phrase de Hallaj, Al-Haq.
Je suis la vérité.
Je suis la vérité. Je suis le vrai. Ce qui peut être traduit par rapport à ce que nous venons de dire comme, même si c'est un peu abstrait, mais on peut le rendre concret, le jeu est la vérité. C'est-à-dire, la vérité est dans le jeu, dans le ana. C'est-à-dire que la vérité de l'être serait dans l'affirmation d'une personnalité qui dit je, d'une personnalité transcendante qui dit je et qui est en position d'être créatrice de l'être et créatrice des univers. Hein, si je reprends le vocabulaire coranique, l'idée qu'il n'y a pas un univers mais une multiplicité d'univers. Mais ce qui est tout à fait étonnant chez Mohamed Iqbal quand il reprend la phrase de Hallaj, « An al-Haq, je suis la vérité », c'est que il dit en anglais, il l'a traduit en anglais par « je suis la vérité créatrice », »,« the creative truth ». Donc il ajoute un élément qui est quand même tout à fait étonnant parce qu'il donne justement à cette idée de personnalité divine, de Houdi ou de Allah ou de « je suprême », il lui donne un caractère éminemment dynamique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité suprême qui se contenterait de trôner, je dirais, hein, mais qui crée et qui est une activité créatrice perpétuelle. Là, la réminiscence va être du côté de ces soufis comme Ibn Arabi qui ont parlé de création continuée, etc., etc. Et effectivement, il décrit le divin qui est en même temps l'expérience suprême que l'humain fait de lui-même comme l'expérience d'une activité créatrice continuelle. Donc un Houdi qui est absolument ou qui est formidablement dynamique et dit-il, qui va s'exprimer de deux manières, qui va s'exprimer chez le prophète, pas seulement le prophète Mohammed, mais pour lui, Mohammed est véritablement un archétype de cela, et aussi de façon plus subtile, je dirais, chez le saint, chez le wali, hein, au sens où le prophète, lui, amène un livre, il amène un texte, il est créateur d'une nouvelle culture, d'une civilisation, etc., etc. Donc il transforme le monde de façon particulièrement visible, etc. Il dit, le wali incarne également le houdi, et manifeste cette activité créatrice du Houdi, mais de façon beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que le saint, le wali, c'est celui qui se contente, justement, par exemple aussi, de ce que les hindous appelleraient une action de présence dans le monde. Et dans son activité contemplative du monde, il y a une sorte de création silencieuse, de création paradoxale par le non-agir.
Et cette création silencieuse et paradoxale par le non-agir est itérative, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a recréation. Les mystiques accomplis, les walis, les saints pourraient être conscients de cela dans le sillage de l'héritage prophétique, comme disent certains. Donc il reprend à son compte l'idée d'une recréation perpétuelle.
Tout à fait. Et c'est là qu'il rebondit, je dirais, de façon dynamique sur ce que dit Bergson, parce qu'il dit « elle est là, la durée ». La voilà, la durée. Elle est à ce niveau d'expérience de soi et d'expérience de l'être. C'est-à-dire que celui qui fait l'expérience en lui-même d'être, je dirais, traversé par une puissance créatrice supérieure ou d'être peut-être même source d'une puissance créatrice supérieure, le temps qui passe ne passe plus contre lui et ne le tue plus. hein, puisqu'il est créateur en même temps de l'espace et du temps, et chaque instant nouveau est un instant de création et de recréation à la fois du monde ou des univers et de soi.
Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le philosophe Abdennour Bidar. Nous parlons aujourd'hui à l'occasion des 80 ans du décès de Mohamed Iqbal, de sa spiritualité, de sa philosophie, de sa pensée, de son œuvre. Et vous, Abdennour Bidar, qui connaissez bien l'homme et l'œuvre, vous lui avez consacré nombre de vos travaux, y compris votre thèse de doctorat en philosophie. Il a rencontré, en plus d'Henri Bergson, Louis Massignon. J'y pense à l'idée que, comme Louis Massignon a consacré son œuvre majeure à la passion d'Al-Hallaj, le surnom qu'on lui donne, c'est le quart d'heure des consciences. Sinon, il ne s'appelle pas Hallaj, Al-Hallaj étant uniquement un surnom. Ça, c'est le versant mystique de sa pensée. Mais on oublie aussi c'était un homme qui a fait du droit. Et qui, alors, l'a-t-il exercé longtemps? Peu, parce que c'était aussi un avocat, même s'il n'était pas intéressé, nous dit-on, vous qui savez mieux que moi, par l'advocature. Et le droit donne, en principe, aussi du sens, de la raison, de comment on régule le comportement des hommes. Je voulais un peu aborder avec vous cet aspect momentanément.
Alors c'est intéressant, même si dans l'œuvre de Mohamed Iqbal, il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'entrée sur cette question-là. Mohamed Iqbal a fait des études de droit en Occident, et il est devenu un lawyer, un homme de loi. Voilà. Bon, pour moi, l'influence majeure de ces études et de cette réflexion sur le droit se trouve également dans reconstruire la pensée religieuse de l'islam, notamment dans les dernières conférences, et en particulier dans l'une d'entre elles, où il dit quelque chose, je dirais, qui est potentiellement presque un scandale. Un scandale religieux. Il dit « Le Coran n'est pas un code légal ». Je le cite textuellement. « Le Coran n'est pas un code légal ». Et à juste raison. Et pourquoi un scandale? Parce que, par rapport à ce que Mohamed Harkoun, par exemple, appelait l'inflation, et on se souvient de toute la puissance critique qu'il mettait là-dedans, l'inflation de la raison juridico-théologique en islam, et la façon dont un certain islam, en tout cas, se considère encore aujourd'hui comme religion de la loi, c'est-à-dire religion dans laquelle tout est normé par des règles, par des normes et par des lois. Mohamed Iqbal s'inscrit complètement en faux contre cela. Et là encore, je dirais que ce qu'il nous dit nous renvoie à cette figure éminemment créatrice du prophète. Je vais vous expliquer le rapport entre les deux. Mohamed Iqbal dit « Regardez ce que faisait le prophète Mohamed et ce qui est compilé dans les hadiths, hein, c'est-à-dire dans toutes les traditions de ses dits et de ses faire. Bon. »
Et que dans certains cas de ses silences devant certaines situations.
En effet, et puis sa pas fameuse parole « Laissez-moi tant que je vous laisse hein, ». Arrêtez justement de me demander à moi de choisir et de décider au lieu de vous servir de votre propre conscience, de votre propre raison et de votre propre cœur, je dirais. Bon, eh bien, chez Mohammed, selon Iqbal, chez le prophète Mohammed, il y a cette capacité créer véritablement une réponse pour chaque situation de la vie. Mais une réponse qui n'est pas une réponse définitive, qui est une réponse pour la situation, une réponse en situation. Et Mohamed Iqbal dit, regardez l'ironie de ce que les musulmans ont fait de ces réponses. Ils ont institué ces réponses comme autant de normes, comme autant de règles, alors qu'il aurait fallu imiter non pas la réponse, non pas suivre la réponse, mais imiter l'élan créateur qui est celui du prophète à chaque fois qu'il répond. C'est-à-dire ce mouvement par lequel le prophète va chercher la réponse dans sa propre intériorité créatrice. Donc, c'est en ce sens-là que Mohamed Iqbal dit « Le Coran n'est pas un code légal, les hadiths ne sont pas des livres de loi. » Le Coran et les hadiths nous parlent en réalité de quelque chose qui est une activité créatrice à l'œuvre. Et vous serez musulmane ou vous serez musulman à mesure que vous serez non pas soumis à la loi de Dieu, mais à mesure que vous deviendrez vous-même créateur, comme l'a été le prophète dans les hadiths, et comme le Coran nous indique que Dieu l'est lui-même.
Abdel Nour Bidar, l'œuvre de Mohamed Iqbal parle pour lui, elle est passionnante, elle est riche. Un de ses ouvrages, L'aile de Gabriel, oui, est une immensité à la fois de production, de fabrication, pour revenir toujours à l'étymologie de la poésie, comme vous le dites si bien. Son humanisme n'est pas est attesté. Alors d'aucuns, et je vous pose simplement la question pour essayer de comprendre, vous qui le connaissez bien, d'un point de vue livresque, sa rencontre avec le doute chez Mussolini, c'est fait dans quel contexte et pourquoi ?
Alors, Mohamed Iqbal a rencontré Mussolini. Alors ça fait partie des choses qui nous épouvantent aujourd'hui. On se dit comment il a rencontré Mussolini, etc. On est au début des années 30. Mohamed Iqbal voyage en Europe il voyage à nouveau en Europe. Alors là, je dirais deux choses. Mohamed Iqbal s'est aventuré en politique. Il a fait partie de la Ligue musulmane, qui a abouti, 9 ans après sa mort, à la création du Pakistan. Partition 1 de Pakistan, c'est 1947. Bon. Il s'est aventuré en politique, et très honnêtement, c'est ce que j'explique dans le livre, je crois qu'il s'est un peu égaré en politique. Je crois malheureusement que beaucoup de philosophes font au fil des siècles ou connaissent la mésaventure de Platon à Syracuse. On se souvient de Platon qui était allé voir le tyran Denis à Syracuse, Denis lui ayant promis qu'il appliquerait, qu'il mettrait en œuvre grandeur nature, je dirais, dans sa cité, la fameuse Kallipolis, c'est-à-dire la fameuse cité idéale imaginée par Platon dans la République. Bon, on sait ce qu'il en est advenu. Pour Platon, ça a mal tourné. Et je dirais, pour un Mohamed Iqbal, il y a dans la création de la République islamique du Pakistan quelque chose qui est, je dirais, presque la trahison, mot pour mot, de ce qu'il avait imaginé, dans une période qui était une période de lutte contre la colonisation. Mohamed Iqbal est un contemporain de Gandhi, du côté indien. Et donc, il faut imaginer que tous ces intellectuels, tous ces penseurs qui s'engagent en politique le font pour lutter contre la colonisation anglaise d'abord. Il n'empêche que Mohamed Iqbal n'a probablement pas maîtrisé ses engagements. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu à quel point, de façon presque fatale, ce Pakistan qu'il appelait de ses voeux deviendrait une république nationaliste dans laquelle, contrairement justement à ce qu'on vient de dire et ce qu'il a dit lui-même, eh bien, la loi islamique deviendrait la norme non seulement sociale et religieuse, mais également politique.
Alors qu'il visait une république, une cité des hommes libres et créateurs.
Voilà, une cité des hommes libres et créateurs, et comme nous l'avons dit au début de l'émission, très très largement au-delà des rivages de la Oumma Islamia ou du monde musulman. Je cite par exemple, je vais en venir à Mussolini, c'est le deuxième point, je cite dans le livre ce que dit Souleymane Bachir Diagne justement au sujet du Pakistan et de la filiation ou pas, et en l'occurrence ou pas, que l'on peut voir entre l'œuvre et l'engagement d'Iqbal et le Pakistan. Et Diagne dit la chose suivante, « Aujourd'hui, dans le Pakistan qu'il a ainsi contribué à faire être, les crispations multiples, politiques, religieuses, militaires, sont un démenti continuel de sa pensée. » Je développe cette thèse. Il n'empêche que mon propos n'était pas de faire une hagiographie de Mohamed Iqbal, d'en faire une espèce de penseur absolu qui aurait été capable de tout maîtriser. Non, je crois qu'en politique, il s'est largement égaré. Il a rencontré Mussolini.
À la demande de Mussolini.
À la demande de Mussolini, parce que Mohamed Iqbal a déjà à ce moment-là, dans l'Asie musulmane, l'aura moins du philosophe que du très grand poète, etc. Et puis Mohamed Iqbal est intéressé, je dirais, par toutes les figures de force. Hein, toutes les figures des forces, c'est-à-dire toutes les figures qui prétendent, puisque bon, pour Mussolini ça ne peut être qu'une prétention, qui prétendent redonner une puissance nouvelle à un certain nombre de traditions, hein, un certain nombre de traditions spirituelles, un certain nombre d'héritages, etc. Et je crois que là aussi, hein, il y a une part d'illusion dans ce que Mohamed Iqbal peut imaginer du côté de Mussolini. Il ne perçoit pas, je dirais, la potentialité destructrice qu'il y a dans cette figure. On est au début des années 30. Ça fait partie de ce que j'appellerais les mésaventures d'une vie. Nul n'est parfait.
Bon, je me devais de vous poser cette question. Et pourtant, son aura reste immense. On parle de lui comme étant le Victor Hugo indien, puisqu'à ce moment-là, on ne parlait pas de Pakistan. Rabindranath Tagore reste ébloui par sa poésie et aussi sa philosophie. Nous finirons, si vous voulez bien, Abdennour Bidar, sur cette idée d'une république des Hallaj, à laquelle il appelait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et ce serait peut-être une manière de conclure sur l'œuvre, à supposer qu'on puisse le faire comme ça, de Mohamed Iqbal, qui est immense.
Ça m'inspire un commentaire sur son actualité. Sur son actualité. Comme je l'ai dit à un moment donné de l'émission, il me semble que la crise que nous traversons aujourd'hui, qui est une crise multiforme, une crise écologique, crise des inégalités, crise du sens, hein, crise du commun, etc., je crois que la racine de cette crise, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs notamment dans ma lettre ouverte au monde musulman, je crois que la racine de cette crise est spirituelle. Il me semble que c'est ce qui fait l'actualité d'hommes comme Mohamed Iqbal. Nous avons à travailler sur le plan social et politique. Nous avons à travailler pour un monde dans lequel il y a plus d'égalité, plus de justice. Mais nous ne réussirons à travailler efficacement à l'extérieur de nous-mêmes que si nous savons travailler en même temps à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons perdu de vue. Hein, cette idée qu'il y aurait une éducation spirituelle, une éducation intérieure. Que nous sommes disposés différemment vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la compassion, vis-à-vis de la miséricorde, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis de la non-violence, à partir du moment où nous avons suffisamment œuvré à les installer d'abord en nous-mêmes. Vous vous souvenez de la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ce n'est pas une baguette magique, mais nous sommes, je crois, dans un temps où les questions deviennent, en toute laïcité, inséparablement spirituelles et politiques.
Bien, merci infiniment, merci Abdennour Bidar. En ces temps de commémoration des 80 ans qui nous séparent de la mort de Mohamed Iqbal, auquel vous avez consacré donc cet ouvrage considérable, l'islam spirituel de Mohamed Iqbal, paru chez Albin Michel. C'était Question d'islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.
Thank you.